Bonjour à toutes et à tous. Pour notre rendez-vous de cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Cécile Cailloux-Robert, directrice de l'Institut français Romain Gary de Jérusalem. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à l'Institut. Et pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers ou qui sont peu familiers avec Jérusalem, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous situer l'Institut dans l'espace urbain, dans Jérusalem?
Tout à fait. Donc l'Institut français de Jérusalem est situé en plein centre-ville, en plein cœur de la ville, quasiment dans les locaux de la municipalité de Jérusalem, à la sortie de la porte de Jaffa et de la porte Neuve, donc à proximité de la vieille ville également.
Oui, c'est un endroit vraiment privilégié pour ceux qui viennent pour la première fois. Je pense qu'ils sont frappés comme moi par cet endroit privilégié parce que c'est vraiment, si vous voulez, à la limite de la partie ouest de Jérusalem, juste devant la vieille ville et devant ce qui est après donc la partie est.
Oui, tout à fait. Mais je crois d'ailleurs qu'à l'origine, c'était le projet quand le centre a été créé, a été ouvert ici en 2000, donc avant la seconde intifada. L'idée, c'était de créer un lieu qui soit vraiment ouvert à toutes les populations, à la fois au public israélien, mais aussi au public palestinien, et donc de choisir une localisation la plus centrale possible.
Oui, alors je pensais aborder ce thème un petit peu après avoir parlé des activités, mais puisque vous en parlez, je pense que c'est intéressant de mettre l'accent sur le fait que quand on connaît la ville et qu'on s'aventure dans la partie est, on se rend compte qu'il y a un autre institut français qui est l'Institut français Chateaubriand. Et cet institut a été créé plus tard alors que le Romain Gary, non.
Non, non, pas du tout. L'Institut était créé plus tôt. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement quand, mais historiquement, on a effectivement deux instituts français à Jérusalem. Je crois que c'est la seule ville au monde où la France a deux instituts français. Ça s'explique très bien hein, par le fait que, bien qu'on souhaite nous faire des ponts et faire en sorte que les publics se rencontrent, on a à Jérusalem deux villes, deux publics distincts qui se distinguent notamment par la langue qu'ils parlent. À l'Institut français Chateaubriand, beaucoup d'activités sont en langue arabe. Il y a très peu de francophones à Jérusalem-Est parmi les Palestiniens. Du côté ouest de la ville, on organise des activités en hébreu, puisque c'est la langue parlée de ce côté de la ville, mais aussi en français, parce qu'on a cette chance, nous, d'avoir une très forte communauté francophone. Je ne parle même pas uniquement des Français hein, qui se sont installés à Jérusalem, mais on a aussi beaucoup d'Israéliens qui parlent français.
Oui, donc des activités pour les Français, les francophones, les francophiles, les Israéliens qui veulent apprendre le français aussi, parce que je pense que vous avez aussi des cours, n'est-ce pas, de français.
Ouais. Mais d'une manière générale, les instituts français dans le monde fonctionnent tous un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, pour faire simple, trois types d'activités, un centre de langue, donc on enseigne le français, effectivement, aux Israéliens, et pas seulement aux Israéliens, parce qu'on a aussi un public de diplomates, un public de personnes qui travaillent dans les ONG. Quelques Palestiniens aussi qui, pour des raisons qui leur sont propres, choisissent de s'inscrire ici pour apprendre le français. Donc, on a ce centre de langue qui fonctionne bien, qui est dynamique, qui accueille chaque année 300 à 400 étudiants par session de 3 à 6 mois. Donc, un centre de langue dynamique. On a, alors ici, elle est très développée. On a une bibliothèque, donc une bibliothèque française, une médiathèque française, dans laquelle on offre des livres, évidemment, mais aussi des vidéos, de la musique. On a une spécificité, on a un fonds jeunesse assez bien développé, parce qu'on s'intéresse beaucoup au public enfant. Et donc, cette bibliothèque propose des livres uniquement en français et donc évidemment accueille plutôt un public francophone. Cela dit, on a aussi les étudiants de nos cours de français qui parlent pas très bien français puisqu'ils l'apprennent, mais qui viennent emprunter par exemple des livres en français facile ou alors des vidéos. Puisque l'avantage des vidéos, des DVD, l'avantage des films, c'est que, comme vous le savez, ils sont sous-titrés et que ça facilite beaucoup le dialogue interculturel. Voilà.
Et le troisième volet.
Et le troisième, Alors voilà, le troisième volet, ce sont les activités culturelles qu'on organise aussi autour de la bibliothèque, notamment quand il s'agit de conférences, de lectures, mais aussi qu'on organise à l'extérieur, hors les murs. Dans des institutions partenaires, pour le cinéma, pour les arts vivants, aussi pour les arts, ce qu'on appelle les arts visuels, les expositions. Voilà, on a plusieurs lieux partenaires à Jérusalem avec lesquels on travaille de manière plus ou moins intensive. Par exemple, on a un partenariat très très régulier avec la Cinémathèque de Jérusalem. Tous les mois, au moins tous les mois, on projette un film en avant-première, un film français récent. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Ciné Première. On est partenaire de la Cinémathèque pour un certain nombre de festivals. En décembre, à la période de Hanouka, il y a le festival du film juif, dans lequel il y a toujours une programmation française assez importante. On est généralement partenaire de cette opération. On est partenaire aussi avec la Cinémathèque pour le festival du film français, qui a lieu chaque année au mois de mars, avril, avant les fêtes de Pâques. Et puis, à d'autres occasions aussi, on a des projets en commun avec la Cinémathèque. Donc, c'est vraiment un de nos partenaires importants. Sur des partenariats moins réguliers, je pourrais, par exemple, vous citer le Musée de la Science, Bernard Bloomfield, qui est un musée tout à fait passionnant à Jérusalem, qui propose des activités au jeune public.
Oui,
exactement, au jeune public. Et alors, il se trouve que nous, on a travaillé avec eux sur des opérations qui n'étaient pas forcément jeune public. Mais voilà, on a monté deux ou trois opérations en partenariat avec eux depuis que je suis là. Un festival de... En anglais, on utilise le terme, même si j'aime pas employer les termes anglais... Bubble Festival, un festival de bulles de savon géantes. On avait invité des artistes français à se produire dans le cadre de ce festival qui était organisé donc par le musée des sciences. On avait aussi organisé une conférence et une projection spéciale à l'occasion de la sortie d'un film de Yann Arthus-Bertrand sur l'eau, hein, qui s'appelait La soif du monde, et donc il y a une thématique. Alors là, ça concernait plutôt les adultes. Mm-hmm. Et puis plus récemment, alors c'était pas nous, Institut français directement, mais c'était un projet avec la Cité des sciences de la Villette, puisque le Musée des sciences de Jérusalem a fait venir et adapté ici, pour un public israélien, une exposition sur l'ombre et la lumière, qui était vraiment magnifique. Donc voilà un autre des partenaires avec lesquels on travaille. On est aussi souvent associé au festival d'art vivant qui se déroule à Jérusalem. Là justement, à la fin du mois, il y a le International Jerusalem Dance Week, qui est un festival de danse porté par le Mahol Shalem Dance House, qui est l'organisation, c'est pas un bon terme, mais une structure qui promeut la danse contemporaine à Jérusalem. Voilà. Donc là, on est aussi associé à ce festival qui accueille deux participants français cette année.
Oui, alors l'expression hors les murs m'intéresse parce qu'effectivement, c'est pas limité à cet espace de l'Institut. En tant que tel, hors les murs, c'est hors les murs à l'extérieur à Jérusalem, mais aussi ailleurs dans le pays. Donc comment est-ce que vous faites pour propager un peu votre programmation ailleurs qu'à Jérusalem? Est-ce que c'est possible ça?
Alors, aujourd'hui avec Internet, tout est possible. Mais moi je voudrais quand même dire quelque chose. Nous on est l'Institut français de Jérusalem.
Oui.
Donc, et qui plus est l'Institut français de Jérusalem, Romain Gary, donc qui a vocation à travailler à Jérusalem-Ouest. Donc nous on a un rayonnement géographique qui est quand même assez
développé.
Non, pas développé, ni restreint, mais très clair. C'est-à-dire que voilà, on travaille dans certaines limites géographiques. Alors évidemment, il y a des gens qui viennent de Tel Aviv pour assister à nos événements, parce qu'ils sont informés de nos activités justement via une communication qu'on fait qui est assez bonne, je crois. Moi, je suis très attachée à. Au fait de dire que notre activité vraiment se concentre sur Jérusalem. On a nos collègues de Tel Aviv qui, eux, dirigent l'Institut français d'Israël et qui ont une vocation plus large à travailler effectivement en partenariat, à faire rayonner la culture française sur l'ensemble du pays. Mais pour Jérusalem, on a vraiment un traitement, un traitement à part.
Alors, concernant, vous l'avez abordé, concernant la communication aux personnes qui sont intéressées, quels sont les réseaux que vous utilisez, quels sont les moyens employés ?
On a un site internet qui est assez bien fréquenté. On est présent sur Facebook, on a une newsletter. On est assez classique en fait, hein, parce que même notre présence sur Facebook, c'est une présence qui est assez institutionnelle. Je dirais pas grand chose là-dessus. Ce qui fonctionne bien aussi, notamment pour les cours de français, mais aussi pour les activités culturelles, c'est le bouche à oreille. Je me suis rendu compte que quand on organise des événements, on peut avoir 3 personnes, enfin 3 personnes, non, ça arrive rarement, mais on peut avoir 15 personnes et on peut avoir intramuros plus d'une centaine de personnes, parce qu'ici, vous voyez, c'est quand même pas très très grand. Quand on organise un événement à la Cinémathèque, on peut avoir 400 personnes. L'information se diffuse. Je veux dire, ici, quand les gens sont intéressés par quelque chose, ils se déplacent. Et quand quelque chose les intéresse, ils finissent toujours par savoir que ça existe et ils viennent. Donc voilà, on maîtrise un peu notre communication, on essaye de faire les choses bien, mais après, il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent.
Oui, moi, je suis très intéressé par l'aspect bilingue que l'on trouve ici à cet institut, c'est-à-dire français et hébreu, pardon. En général, quand il y a des événements organisés, vous faites très attention au public israélien, c'est-à-dire qu'il y a des sous-titres en hébreu ou il y a un interprète qui vient donc parler en hébreu. Et je pense que c'est un aspect important, n'est-ce pas, de votre travail, de votre activité. Ça demande beaucoup d'efforts.
Ça demande beaucoup d'efforts, surtout que, étant donné qu'il y a une communauté francophone assez nombreuse, on pourrait se dire, limitons-nous aux gens qui parlent français. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, et de manière générale, ce n'est pas l'état d'esprit qu'on développe dans le réseau culturel français à l'étranger. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter la culture française aux gens qui ne parlent pas français. Alors ici, on a la chance d'avoir cette communauté francophone qui est, d'une certaine manière, une porte d'entrée pour la communauté non francophone, parce qu'il y a beaucoup de francophones qui sont mariés, par exemple, à des Israéliens qui ne parlent pas français. Donc le public va venir parce que l'activité est francophone, parce qu'ils ont une familiarité, une proximité avec la culture française, mais ils vont amener leurs amis qui, eux, ne parleront pas français. Et alors là, évidemment, si c'est pas traduit en hébreu, on se coupe vraiment d'une énorme partie de la population, parce que déjà les gens, s'ils peuvent pas amener leurs amis, s'ils peuvent pas amener leurs compagnons, leurs compagnes, voire même leurs enfants, parce que quelquefois les enfants ne parlent pas aussi bien le français que leurs parents, ils ne viendront pas. Voilà, c'est dommage. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir être vraiment aussi dans la diffusion de la culture française en hébreu, ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué parce que d'abord, ça a un coût. Sous-titrer un film, ça va, mais une pièce de théâtre, par exemple, surtitrer une pièce de théâtre, c'est plus compliqué. En plus, c'est quand même... c'est pas évident d'aller voir une pièce de théâtre en français, de lire le sous-titre en hébreu, donc c'est quand même un peu exigeant. Alors pour le théâtre, on le fait assez rarement. D'ailleurs, on diffuse pas énormément le théâtre francophone aux Israéliens, on essaye de le faire, notamment pour les conférences. Alors là aussi, c'est compliqué parce que comme on n'a pas de système,
C'est l'interprétation consécutive.
Voilà, c'est l'interprétation consécutive parce qu'on n'est pas équipé pour l'interprétation
simultanée.
Comme on a un interprète qui travaille pour nous, qui, je le souligne, n'est pas du tout un interprète professionnel, mais qui est absolument remarquable. Je pense que c'est quelqu'un qui est très doué. Il s'appelle David. Il est très apprécié par le public israélien. Il fait ça très bien. Et donc, voilà, ça donne un côté un petit peu sympathique. Les gens se plaignent rarement de trouver ça trop long. D'ailleurs, on ne fait pas toujours appel à David. Hein. On avait organisé des rencontres avec les grandes figures de la littérature israélienne. On avait reçu notamment Aaron Appelfeld, David Grossman, donc qui ne parle pas français. Et là, on avait fait la traduction simultanée, mais dans l'autre sens. Justement, pour que des gens qui ne parlent pas encore l'hébreu, parce que finalement, il y en a, ou qui ne le parlent pas assez bien, puissent aussi, ou des expatriés, par exemple, puissent aussi participer à l'événement et mieux connaître la littérature israélienne de ces auteurs qui sont bien connus en France parce qu'ils sont traduits en France.
Oui, par expérience personnelle, quand je viens à un événement ici et que c'est interprété en hébreu, c'est très intéressant parce que comme j'apprends l'hébreu, il y a toujours une sorte de feedback, encore un mot anglais, il y a toujours un retour qui m'intéresse parce que je suis en train d'apprendre. Et j'imagine qu'à l'inverse, pour les Israéliens qui veulent ou qui apprennent le français, il y a toujours des mots qui restent quelque part dans le cerveau. Donc je pense que c'est très intéressant, je voulais mettre l'accent là-dessus, et bien que ça continue alors.
Oui, bah, on essaye de le faire vraiment dès que c'est possible. Et on voit que de toute façon, quand on propose des activités bilingues, il y a plus de monde qui mm-hmm. qui se déplace.
Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du consulat français qui joue un rôle important pour l'institut qui s'appelle Romain Gary. Et il y a eu une représentation, justement, on parlait de théâtre et de sous-titres du théâtre, de pièces de théâtre, L'angoisse du roi Salomon de Romain Gary. C'est une des dernières activités qu'il y a eu au consulat. Il y a aussi eu la présentation du Beaujolais Nouveau, dans un autre registre. Ça nous permet donc de parler du consulat qui, comme vous allez me le dire, joue un rôle important la tutelle.
Oui, il joue un rôle important. Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que le réseau culturel français à l'étranger, c'est un réseau qui dépend du ministère français des Affaires étrangères. Mmh. Et donc, localement, il est rattaché aux représentations diplomatiques, ambassades, voilà. À Jérusalem, on est donc rattaché au consulat général de France à Jérusalem, qui n'est pas, comme vous le savez, une antenne de l'ambassade de France à Tel Aviv, mais qui est donc une représentation indépendante, et c'est donc notre tutelle. Ce qui explique aussi que le consul général de France, Monsieur Hervé Magro, est souvent présent à nos activités, attache beaucoup d'importance à ce qu'on fait, nous soutient. Vous soulignez qu'il a organisé donc à la résidence magnifique demeure la réception du Beaujolais nouveau, ce qui était très très bien pour nous parce que en général depuis 3 ans on l'organisait ici à Romain Gary. Et c'était bien pour nos partenaires, pour les gens qui avaient envie d'y participer, de pouvoir aussi être dans un lieu un peu plus, je dirais, prestigieux, avec cette vue magnifique sur les remparts de la vieille ville. Donc oui, le consulat général est très présent à nos côtés.
Bien, je voudrais revenir, avant de terminer, sur le partenariat que vous avez éventuellement avec Châteaubriant. Pour les auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec Jérusalem, il y a vraiment une séparation physique entre la partie est et la partie ouest. Et vous avez bien expliqué la différence, et je pense personnellement que c'est une sorte de symbole de la séparation physique qu'il y a entre les deux parties. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous envisagez d'approfondir le partenariat avec cet institut, ou par expérience personnelle, je me rends compte que les activités sont très différentes, finalement, les unes des autres.
Alors, d'abord, vous parlez de partenariat, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous sommes le même institut. En fait, nous sommes l'Institut français de Jérusalem, et nous sommes deux antennes différentes du même institut. Donc, c'est beaucoup plus qu'un partenariat, puisque c'est la même maison. C'est la même maison, mais qui a des activités différentes, qui s'adresse à un public différent, qui travaille pas dans la même langue, puisque nous, c'est l'hébreu et eux, c'est l'arabe, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais donc, oui, on travaille beaucoup ensemble. On a des réunions alors peut-être pas hebdomadaires, mais très, très régulières avec l'équipe de Chateaubriand, en tout cas moi, avec le directeur de Chateaubriand. Et à chaque fois que c'est possible, on monte des opérations ensemble. Par exemple, très récemment, voilà, on a reçu Michel Onfray. On a reçu donc le philosophe Michel Onfray, qui est quelqu'un de très connu ici. Et voilà, il venait à Jérusalem et on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on allait organiser la rencontre avec lui. Et on a décidé, voilà, d'un commun accord, que la rencontre serait organisée chez nous à Romain-Gary. Non pas parce que c'est plus grand, parce qu'on était à l'étroit, mais on aurait été à l'étroit chez eux aussi, mais parce que c'est là qu'il y a le plus de francophones, et donc ça nous semblait plus juste de le faire ici. On travaille souvent en partenariat avec la librairie Vice Versa, la librairie francophone, donc qui est notre voisine aussi. Et donc voilà, on a décidé que l'événement se déroulerait à Romain-Gary, mais que ça serait un événement qui serait annoncé au public des deux instituts. Voilà. On le fait aussi, par exemple, quand des compagnies de théâtre françaises viennent, ou quand des compagnies de danse françaises viennent se produire à Jérusalem. Là, on essaye aussi de l'annoncer à nos deux publics, même si l'événement se déroule à Jérusalem-Est, par exemple. Donc, une fois par an au moins, on fait venir une grande compagnie de danse qui se produit au Théâtre National Al-Hakawati, qui est à côté du centre Chateaubriand, et on l'annonce, et il y a du public israélien qui va assister à cette représentation. Plus récemment, on vient de terminer la troisième édition de notre concours photo, qui a l'avantage d'être quelque chose d'un peu dématérialisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se rendre quelque part pour assister à un événement. Mais c'est un concours photo qui a été relayé aussi très largement auprès du public palestinien par nos collègues de Chateaubriand. Donc nous étions plutôt l'organisateur du projet, mais c'est un projet qui était assumé par l'ensemble de l'Institut français de Jérusalem et donc aussi relayé par Chateaubriand. Voilà. On travaille ensemble, on va dire.
D'accord. Pour terminer, est-ce qu'il y a une activité ou un projet que vous souhaiteriez mettre en exergue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, organisé par l'Institut ? Quelque chose qui vous enthousiasme particulièrement ?
En fait, moi, tout m'enthousiasme. j'aimerais parler de quelque chose qui n'est pas à venir, mais qui vient juste de se terminer. C'est la résidence d'écrivain, la résidence d'auteur qu'on a créée il y a 2 ans maintenant, et qui nous permet de recevoir chaque année pendant 2 mois un auteur français qui vient ici en résidence avec un projet d'écriture qui a un lien avec Jérusalem. Et donc on lui offre l'opportunité de vivre ici pendant 2 mois, de nourrir son projet d'écriture. Et voilà, et ça je trouve que c'est quelque chose qui est très enthousiasmant, parce que s'il y a bien un endroit où on peut accueillir des gens en résidence, où des créateurs peuvent trouver l'inspiration, où il est important d'être là pour comprendre, c'est ici. Donc moi je suis très fière de ce programme de résidence, et donc j'en parle à chaque fois que je peux. D'autant que le dernier écrivain qu'on a reçu, Emmanuel Rubin, était nominé sur la liste du Goncourt, donc ça a fait beaucoup de bruit ces derniers mois à Jérusalem. Voilà.
Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre passion de l'Institut et de Jérusalem aussi. Et donc merci beaucoup, Cécile Caillou-Robert.
Merci à vous.